pour que l'homme qui s'était séparé de Dieu devienne conscient que hors de la communion avec Dieu, il n'arrive à rien, il a fallu du temps. Dieu n'a pas donné tout de suite une loi. L'homme chassé d'Éden, privé de l'arbre de vie, pensait qu'il pouvait, au fond, parvenir quand même à cette gloire de Dieu. C'était triste d'être chassé et par Dieu, c'était triste de se trouver sur ce sol qui avait été maudit et où croîtraient des épines des ronces. C'était triste pour la femme d'avoir une grossesse douloureuse alors que Dieu lui aurait donné des enfants sans qu'elle ait besoin de connaître ces souffrances-là. Ce n'est pas Dieu qui les voulait, ces souffrances-là. Ce sont les conséquences du péché au singulier. Les conséquences du péché s'appellent les péchés, n'est-ce pas? Et alors, la première de ces conséquences a été vue en particulier dans un des fils d'Adam, qui s'appelle Caïn. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Il a tué son frère. Donc, hors du contrôle de Dieu, ce qui est sorti d'Adam a manifesté vraiment tout ce qu'était son nouveau maître, qui était le diable, qui est un menteur et un meurtrier, dit l'Écriture, dès le commencement. Satan est un menteur et un meurtrier dès le commencement. Et qui est aujourd'hui le prince de ce monde? C'est Satan. Et qu'est-ce que vous voyez dans ce monde? Le meurtre et le mensonge. Parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Et vous voudriez améliorer ce monde? Vous pensez que vous êtes assez fort pour lutter contre celui et qui règne sur ce monde? Vous pensez que vous pourriez, avec toute votre bonne volonté? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vous qui amènerez le royaume de Dieu sur la terre. C'est qui? C'est celui qui a vaincu le monde et qui a vaincu Satan. C'est celui que nous attendons. Nous n'avons aucune espérance dans la capacité des hommes, ni des chrétiens, pour amener le règne de justice et de paix sur la terre. Nous ne croyons pas même que l'évangélisation du monde va transformer le monde. Nous croyons que l'évangélisation du monde sauve des âmes individuellement. Mais quant au monde, il reste le monde. Et ceux qui naissent, même de ceux qui sont convertis, naissent à la ressemblance du premier homme, et eux aussi doivent être changés. De sorte que si vous attendez que le monde se convertisse, il ne se convertira jamais. Il faudrait cesser alors les naissances. Pour que les derniers convertis n'aient plus d'enfants. Vous comprenez? Mais tant qu'il y aura des hommes et des femmes, il y aura des enfants de la chair. Et ce qui est né de la chair est chair. De sorte que le salut du monde ne peut pas venir par les efforts des hommes de bonne volonté. On n'allait pas dire que je décourage les hommes de bonne volonté. Nous prions pour les autorités, nous espérons que les autorités nous donnent la possibilité d'évangéliser. Parce que ce qui compte d'abord, c'est que des âmes soient sauvé, réellement sauvé, transformé, changé, libéré. Mais la parole de Dieu nous dit d'une façon claire que le royaume de Dieu se réalisera par le retour personnel et glorieux de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? C'est cela notre bienheureuse espérance. Et c'est parce que nous avons cette espérance en nous que nous savons que notre foi ne nous confondra pas. Aucun homme, et vous savez, il y en a qui ont essayé de changer le monde, aucun homme n'est arrivé à changer le monde. Pour la bonne raison que le mal est où ? Dans son cœur. On peut améliorer la race de beaucoup d'animaux, hein, mais la race de l'homme, elle est toujours la même. Même ceux qui pensent que bientôt on arrivera, grâce au progrès de la science, à faire des petits génies, hein, mais d'une autre façon que habituellement les enfants se font, mais enfin, ce sera toujours la race humaine. Et voyez-vous, quand on arrive à vouloir toucher à ces questions sacrées de la vie, c'est un signe que nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps. C'était ainsi au moment du déluge, juste avant le déluge. Il y avait toute espèce de puissance sur la terre, il n'y avait pas de loi, mais est-ce que le péché existait quand même? Oui, c'est ce que vous lisez. Le péché a régné depuis Adam sur tous ces gens qui vivaient sans loi, mais le péché ne leur était pas imputé. Mais pourtant, l'état du monde au temps de Noé, il nous est décrit comme un temps de violence, de corruption et d'injustice. À un tel point que Dieu dit, je vais en finir avec l'homme. Mais il y en a un qui trouve grâce à ses yeux, c'est Noé. Il lui donne un ordre de se faire une arche pour sauver les animaux, mais pas seulement les animaux, tous ceux qui voudraient croire à la prédication de Noé. On s'est moqué de lui pendant 120 ans, mais un jour le déluge vint et les fit tous périr. Et alors on pourrait croire que les descendants de Noé auront compris, mais non, ils sont retombés eux aussi dans l'idolâtrie. Et Dieu, qui avait toujours son dessein et son plan, a appelé du sein du paganisme un homme qui s'appelait Abraham, vous connaissez cette histoire, et à Abraham, dans son amour et dans sa grâce, il lui a fait une promesse. Il avait 75 ans, Abraham, quand Dieu lui est apparu dans une terre absolument devenue païenne. Dieu s'est révélé à lui et il lui a fait la promesse qu'il ferait de lui une grande nation, et Abraham a cru. Malgré son âge avancé, il a cru la promesse de Dieu, et c'est bien cela qui l'a sauvé. Abraham crut Dieu. Et qu'est-ce qui l'a rendu juste? C'est sa foi. Hein? Abraham crut Dieu, et sa foi lui a été comptée à justice. Et vous savez comment est né le fils, Isaac? Quand Abraham avait environ 100 ans, c'était plus possible. Dieu, voilà mes amis, il faut que vous croyiez que quand c'est plus possible pour vous, c'est possible pour Dieu. Et toute cette histoire d'Abraham est un enseignement capital pour nous. Si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose ou que vous devez aider Dieu à faire quelque chose, qu'est-ce que vous ferez? Vous écouterez votre Sarah qui vous dit, bien, puisque Dieu n'intervient pas, il faut que nous fassions quelque chose, alors prends Agar, ça va donner la promesse de Dieu. Vous ne pouvez pas aider Dieu à accomplir sa promesse. Quand le temps sera venu, la promesse s'accomplira, mais ça fait attendre. Mais croyez éperdument que cela viendra, parce que l'histoire de Sarah, qui veut aider Dieu, comme on le dit souvent, « Aide-toi, le ciel t'aidera hein, », c'est le grand thème de beaucoup de gens. Il faut vraiment faire quelque chose pour aider Dieu, puis alors Dieu va nous aider après. Non, nous dépendons de Dieu. Et quand l'heure sera venue, il accomplira sa promesse. D'une façon complète, d'une façon totale. Et alors, les descendants d'Abraham, Isaac, Jacob, deviennent donc les ancêtres de ce peuple Israël, qui devra passer 400 ans en Égypte d'abord, puis après vous verrez Dieu intervenant pour sortir ce peuple d'Égypte et le conduire dans le pays promis, le pays de Canaan. Mais l'alliance qui était faite avec Abraham, est-ce que c'était une alliance d'œuvre ou est-ce que c'était une promesse? C'était une promesse. C'était une promesse. Le peuple n'avait qu'à croire ce que Dieu lui dit. Et comment ce peuple en Égypte, sous l'esclavage du Pharaon, a-t-il été délivré? Par ses propres forces? Par la promesse. Et comment est-ce que dans la dernière plaie qui devait frapper l'Égypte, les enfants des Israélites pouvaient être dans cette nuit où l'ange exterminateur passait dans tous les foyers d'Égypte, comment pouvaient-ils être sans crainte et en paix? Par quelle raison? Parce qu'ils savaient que leurs parents avaient mis le sang sur les linteaux des portes. Est-ce que eux, les enfants, voyaient le sang à l'intérieur de la maison? Non, le sang, c'est pas pour nous. Le sang, c'est pour Dieu. Dieu voyait le sang. Mais je sais que le sang a été versé. Alors je reste en paix. Mais si je regarde à mes sentiments, je pourrais me dire, est-ce qu'il verra le sang? C'est pas mon affaire, ça. Comprenez-vous? C'est pas une question de sentiment, c'est pas une question que moi je me sente assuré. Vous voudriez vous sentir que vous êtes assuré. On est assuré que par la foi. Et la foi, qu'est-ce que c'est? C'est une obéissance. C'est une obéissance. Ils savaient que leur père avait obéi. Le sang avait été mis, alors ils étaient en paix. Maintenant, quand ils sont partis, quand ils se sont trouvés devant la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est produit? Tandis que ceux qui savent nager partent les premiers. C'est ça? Non. Ils ont entendu la voix de Dieu. Moïse a frappé la mer. Le passage a été fait. Qu'est-ce qui a agi? C'est Dieu. C'est pas les Israélites. Dieu a agi. Le chemin a été ouvert. Et qu'est-ce qu'ils avaient à faire, eux? Entrer. Comme ils auraient dû entrer dans l'arche. Mais ils n'y sont pas entrés. Mais là, ils sont entrés. Et ils ont été délivrés. Le chemin qui a été pour eux un chemin de salut est devenu pour les incrédules qui ont voulu les poursuivre le chemin de leur perdition. Comprenez-vous? Le chemin qui vous sauve est le chemin qui condamne ceux qui vous opprime. Alors, soyons de ceux qui suivent dans la foi la promesse. Mais alors, quand ils arrivent au Sinaï, et c'est ça qui est très intéressant, et on arrive à la dernière question, est-ce que la loi qui a été donnée au Sinaï, vous le savez, est-ce que Dieu a voulu donner la loi comme remède pour amener l'homme à sa gloire? Reprenez toute cette histoire. Et voyez-vous, il nous faut corriger nos pensées là-dessus. Parce que bien souvent, dans l'instruction même religieuse que nous avons reçue, on a été induit en erreur. Parce que Dieu n'a pas donné la loi pour que nous soyons sauvés. Il a donné la loi pour que nous soyons enfin convaincus qu'on était incapables d'accomplir la loi. Qu'il nous fallait autre chose. Mieux, quelqu'un. Comprenez-vous? Parce que, quand on vous dit que la loi est l'expression de la pensée de Dieu, je n'aime pas du tout cette phrase. Parce que si c'était ça, la loi, l'expression de la pensée de Dieu, alors, si vous accomplissez la loi, vous seriez sauvé. Ce serait ça la pensée de Dieu? Tu ne tueras pas? Tu ne déroberas pas, tu ne commettras pas adultère. C'est tout cela l'expression de la pensée de Dieu, du négatif. Hein? Bien sûr que non. Et Dieu ne donnait pas la loi à l'homme simplement pour qu'il puisse vivre. Mais quand l'homme prétend que Dieu nous dise ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, et nous le ferons, alors Dieu dit, faites ces choses et vous vivrez. Mais qui est-ce qui a demandé la loi? C'est le peuple qui a eu cette prétention. Nous voulons connaître ce que Dieu pense, puis nous verrons sa volonté. Vous connaissez cette prétention humaine? Est-ce qu'elle est encore dans vos cœurs? Seigneur, révèle-moi ta volonté. Je la fais. Il vous la révèle? Seigneur, tu ne pourrais pas me dire autre chose? Vous vous connaissez un peu? Je me connais. Devant Dieu. Et je ne voudrais pas que vous soyez de ces gens qui pensent que la loi vous a été donnée pour que vous puissiez être sauvés. Non. Regardez ce que Dieu dit dans le chapitre 19 de l'Exode. C'est pour ça que c'est toute la Bible que vous devez lire. Vous ne devez plus être de ceux seulement qui lisent des passages bibliques. Cette lecture dévotionnelle, elle est bonne, elle est utile. Mais si vous voulez être rempli de l'Écriture, il faut lire la Bible depuis le commencement à la fin. Et la relire, vous en imprégner, et vous trouverez une unité merveilleuse. Verset 4 du chapitre 19. L'Éternel parle à Moïse et lui dit, tu diras ainsi aux fils d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Est-ce qu'ils l'avaient vu? Oui, ils avaient vécu ça. Et comment je vous ai attelé à des chariots? C'est ça? Votre traduction? Comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et je vous ai amené à moi. Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix, quelle voix? La voix qu'ils entendraient après ou simplement la voix qu'ils avaient déjà entendue? Ils l'avaient entendue, sa voix. Ils l'avaient entendue plusieurs fois. Alors, si vous écoutez attentivement ma voix, si vous gardez mon alliance, quelle était l'alliance qui avait été faite? La promesse, où il n'était pas question de la responsabilité de l'homme, mais de l'amour de Dieu qui voulait sauver son peuple. Alors, si vous gardez mon alliance, cette alliance qu'Abraham avait gardée, l'alliance de la promesse, vous m'appartiendrez en propre dans tous les peuples. Vous serez un peuple pas comme les autres. On verra la différence. Vous serez pour tout le monde un modèle de ce que je veux, de ce que je suis capable de faire de vous. Comprenez-vous? Car toute la terre est à moi. Et vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Est-ce que c'est par la loi qu'ils sont devenus un royaume de sacrificateurs et une nation sainte? Par la loi, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des transgresseurs. Et le peuple le plus misérable qu'on a pu connaître, parce qu'ayant la connaissance du bien et du mal, qui est reflétée dans la loi de Dieu, si l'homme veut être responsable, bien voilà de quoi qu'il est responsable. Vous connaissez les 10 commandements, pour les résumer. Mais qu'est-ce que ces 10 commandements ont manifesté? La corruption du cœur de l'homme et la faiblesse de la chair. Alors, comprenez bien que la loi de Dieu n'a pas été donnée pour que vous puissiez parvenir à la gloire de Dieu. Puisque, si vous lisez le chapitre 3 des Romains, j'espère que vous l'avez lu, il est dit que personne ne peut être justifié par des œuvres de la loi. Que tous ont péché, qu'il n'y a pas de différence. Il y a 14 points, j'appelais cela il y a 50 ans déjà, un réquisitoire en 14 points qui nous montre que l'homme est vraiment perdu et incapable de parvenir à la gloire de Dieu. Et même quand il a la loi devant lui, il peut reconnaître que c'est bien cette loi, mais il la transgresse. Et c'est toute cette histoire que vous trouvez résumée par Paul dans ce fameux chapitre 7 des Romains, où j'espère que vous avez saisi cela pour vous amener vraiment à désirer vivre d'une autre vie que celle que vous avez et que vous avez connue jusqu'à présent, même avec tout votre bon vouloir. Ignorez-vous, mes frères, mais je vais prendre cette version parce que je crois que vous suivez dans la version seconde. Alors, je prendrai la version seconde, chapitre 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi, qui est donc une règle, un précepte, un principe, exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Là, il prend l'exemple du mariage. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Il n'y a pas de difficulté, ça vous le comprenez. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle est appelée adultère. Donc, la loi est transgressée. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Là, il n'y a pas de difficulté pour comprendre cela. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il est dit ? De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Alors, c'est là qu'il faut bien comprendre. Avant de connaître Christ, nous sommes mariés à qui ? À la loi. Et la loi, alors, elle exerce son pouvoir sur nous. Elle a tous les droits sur nous. Mais est-ce que c'est la loi qui meurt ? Non. C'est nous qui mourons. Et qui sommes libérés de la loi. La loi, elle est toujours là. Mais c'est l'âme humaine qui meurt. Et comment est-ce que nous allons mourir ? À la loi, qu'est-ce qui va nous délivrer du pouvoir de la loi qui avait tout pouvoir sur nous tant que nous vivions ? La mort de Christ. C'est par la mort de Christ, c'est pas la loi qui va mourir, mais c'est nous qui allons mourir à la loi. Alors, une fois qu'on est mort, est-ce que la loi a encore quelque chose à nous dire ? Vous avez récité le code civil, un code quelconque à un mort ? Non. Un mort, la loi ne peut plus rien sur lui. Et c'est ça qui est fantastique. Avant, nous étions mariés à la loi. Et maintenant, c'est nous qui sommes morts à la loi. Mais nous sommes morts par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre qui fait cet autre. C'est Jésus. C'est pourquoi dans les Galates, la loi est considérée comme notre conducteur jusqu'à Christ. Parce qu'il faut quelquefois passer par la loi pour apprendre à se connaître et avoir une conviction de péché. On se croit si bien, on se croit si juste. Et puis même on dit, mais moi j'ai jamais fait de mal à personne. Mais voilà, la loi de Moïse s'adressait donc au peuple juif. Mais quand Jésus a développé la loi de Moïse, il est allé beaucoup plus loin. Il a dit, mais moi je vous dis. La loi dit, tu ne convoiteras point. Mais moi, je vous dis que celui qui a regardé une femme et l'a convoitée dans son cœur, il a déjà commis adultère. Alors, plus personne ne se sent à l'aise quand on pense aux pensées que nous avons pu avoir, bien souvent. Alors, tout à coup, on a mauvaise conscience. Donc, vous voyez que Jésus n'est pas venu pour supprimé la loi est toujours là, mais nous sommes morts à la loi. Nous ne sommes plus tenus par la loi. Parce que sous cette loi, nous étions incapables de porter du fruit pour Dieu. Et justement, la pensée de Dieu, c'est que nous portons du fruit pour lui, pas simplement dans la gloire, mais déjà sur la terre. Alors, car lorsque nous étions dans la chair, cette chair dont j'ai parlé tout à l'heure, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. C'est l'expérience que nous avons faite. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Mais pourtant, il a fallu la loi pour nous amener à faire cette expérience. Que depuis la chute, nous qui sommes nés d'Adam, nous sommes pécheurs. Nous sommes perdus. Nous sommes corrompus. Et nous n'avons pas moyen d'en sortir par nous-mêmes. Vous pouvez faire tous les efforts possibles, vous n'en sortirez jamais. De sorte que, mes amis, si vous êtes sous la loi, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous êtes des malheureux. Si c'est encore la loi qui vous domine, vous êtes sous la malédiction. Parce que personne n'est capable d'accomplir la loi. Devant Dieu qui connaît nos pensées, qui connaît nos paroles, qui connaît nos actions, nous sommes tous coupables. Et nous avons tous une mauvaise conscience. Parce que la loi réveille toutes ces tendances naturelles qui sont en nous, les convoitises qui sont en nous, et justement parce que cela est défendu, j'ai envie de faire. De sorte que, sous la loi, je suis perdu. La loi est sainte, la loi est juste, la loi est bonne, mais qu'est-ce qu'elle me révèle? Que moi, je suis mauvais. Mais est-ce que vous êtes arrivé à cette conviction? Que vous êtes mauvais. Que, au fond, vous ne vous en sortez pas si vous êtes sous la loi. Parce que vous avez bien maintenant le désir de faire ce qui est bien, mais vous voyez en vous une puissance qui vous pousse à faire le mal. Et tout à votre chair qui prend toutes les décisions possibles, qui fait de magnifiques écrits, eh bien, votre chair vous coule. La chair ne peut pas parvenir par ses propres forces à la gloire de Dieu. Jésus l'a dit, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et comme nous allons le voir cet après-midi, l'homme ne peut pas accomplir la loi de Dieu. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faudra? Ben que je meurs. Enfin, mais ça ne m'intéresse pas. Vous direz, ben lui, il est vieux. Il peut bien s'en aller. Hein. Mais nous, vous êtes jeunes encore. Vous voulez vivre. Ben, c'est pour que vous puissiez vivre que je vous dis mourir. Comprenez-vous? Il faut que vous acceptiez cette mort qui va vous libérer de cette domination de la loi pour que vous puissiez vraiment vivre. Mais qui est-ce qui va vous faire vivre? Qui est-ce qui est la vie? Parce que moi, je vis. Vous aussi, vous vivrez. Mais il faut arriver à la fin de ce chapitre 7 des Romains à reconnaître qu'en moi, je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Il n'habite point de bien. Alors, on voit que c'est le péché qui nous domine. Et Paul décrivant cette situation, s'écrit « Misérable que je suis ». Est-ce que vous êtes arrivé déjà à cela, à ce point-là ? Je serais très heureux, soulagé, reconnaissant, si vous pouviez dire « Misérable que je suis ». Non pas vous comparer avec d'autres. Je ne suis pas si misérable, quoi. L'autre, elle est bien plus misérable que moi. Hein. Oui. Est-ce que vous vous connaissez ? Est-ce que vous avez appris à vous connaître ? Est-ce que vous avez entendu les paroles de Jésus parlant de notre cœur, ce qu'il y a dans notre cœur ? Qui nous a dit que ce n'est pas ce qui sort, c'est pas ce qui entre, et qui nous souille, hein, mais c'est ce qui sort de notre cœur. Et il en cite 13 de ces choses qui sortent du cœur de l'homme et qui souillent l'homme. Chapitre 15 de Matthieu, chapitre 7 de Marc. Le cœur de l'homme est incurable, désespérément malin. Qui le connaît ? Moi, l'Éternel, je connais les cœurs. Qu'est-ce que c'est qu'être juste ? Mes amis, vous savez ce que c'est qu'être juste ? C'est dire Dieu a raison. Voilà ce qui vous rend juste. Le jour où vous dites Dieu a raison dans ce qu'il dit de moi, vous êtes juste. En partie. Parce qu'il faut l'autre côté. Ce qu'il me dit de son fils est vrai. C'est ce que nous verrons cet après. Ce qu'il dit de l'autre avec un grand A, c'est vrai. Mais ce qu'il dit de moi, c'est vrai. Que Dieu soit vrai et tout homme menteur. C'est vrai ce qu'il dit. J'accepte pleinement le témoignage que Dieu rend dans l'Écriture de ce que je suis. Et dit oui, misérable que je suis. Est-ce que vous avez besoin de toutes les épreuves de Job pour vous amener à dire ça ? Hein ? Voulez-vous lire ces épreuves de Job ? On dirait qu'il y en a qui les veulent. Hein ? Pourtant, Job est un homme bien. Mais il ne se connaissait pas lui-même. Parce que quand il s'est connu dans la lumière de Dieu, il a dit, j'ai horreur de moi. Je me repens dans la poussière et dans la cendre. Il a eu cette horreur de lui. Et voyez-vous, tous les hommes qui ont été en contact avec Dieu ont passé par cette crise-là. Et si vous ne l'y avez pas passé, demandez à Dieu, révèle-moi que je suis à tes yeux. Et vous serez écœurés. Et vous comprendrez ce que Jésus disait. Que pour le suivre, il fallait renoncer à qui ? À soi. Mais comme on s'aime tellement, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on réalise de soi ? Qu'on arrive à haïr sa propre vie. Parce que je ne veux pas me quitter tant que je m'aime. Il faut haïr sa propre vie. Si quelqu'un ne hait pas sa propre vie, il ne voudra pas de l'autre. Il faut que je sois écœuré de ma vie propre pour que je désire l'autre vie et que je la saisisse et de même, est-ce qu'il me la donnera cette vie-là ? C'est ça que vous devez croire. Est-ce qu'il vous l'a donnée ? Est-ce qu'elle est à votre disposition ? L'arbre de vie, il était à la disposition. Il n'y avait pas d'empêchement dans le jardin d'Éden. Adam n'a pas pris ce chemin-là. Alors il n'a pas eu la vie. Mais le Seigneur est là, il est venu, il y a bientôt 2000 ans qu'il est venu, tout a été accompli pour que vous ayez la vie, cette vie, il l'a donnée. Alors, quand vous arrivez à la fin du chapitre 7 des Romains, il vous dit, qui me délivrera du corps de cette mort ? Qui me délivrera de cette misère que je suis ? C'est qui ? C'est Jésus. Il rend grâce à Dieu. Par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a été donné. Alors maintenant, c'est le Christ dans sa plénitude que nous allons saisir. Et c'est lui qui seul a accompli la loi et qui, en nous, va vivre cette loi. C'est plus nous qui allons vivre la vie chrétienne, c'est lui qui va vivre la vie chrétienne en nous. Que vous soyez né catholique, que vous soyez né orthodoxe, que vous soyez né anglican ou que vous soyez né évangélique. Comprenez-vous ? Ces titres-là ne m'impressionnent pas. Pas du tout. votre étiquette ne m'impressionne pas. Et je n'essaierai pas de faire changer votre étiquette. Mais je vous dirai, acceptez d'échanger votre vie. Comprenez-vous? Ce qui compte, c'est l'échange de votre vie. C'est pas quitter une église pour aller dans une autre. Ça, c'est pas mon travail. C'est que votre vie soit échangée et que vous ayez la vie du Christ en vous, que vous soyez habité par celui qui a rendu la loi grande et honorable et qui voudrait que vous ne soyez plus simplement sous la loi du « tu dois et tu ne dois pas », mais vraiment sous la grâce et porté par la grâce. Pouvons devenir entre les mains de Dieu son ouvrage créé pour les œuvres que lui a préparées pour vous et qu'il veut certainement vous manifester si vous avez renoncé à vos plans et à vos projets pour dire enfin, ô Dieu, ce que toi tu veux. Amen.
Dieu notre Père, nous voulons te demander de nous aider à poursuivre cette étude de ta parole en te suppliant que ce ne soit pas des choses intellectuelles que nous saisissions aujourd'hui par ton esprit, mais que ce soit des choses réelles et qui pénètre nos cœurs, et que le Saint-Esprit puisse vraiment nous convaincre que ce sont des choses vraies, et que tu veux que nous reconnaissions ta grandeur, et que devant ta grandeur, devant ta sainteté, devant ta puissance, nous confessions que nous sommes petits, que nous sommes incapables, impuissants, mais que nous puissions croire à ton grand amour et que nous soyons certains que ce plan que tu avais, tu as voulu le réaliser pour chacune de nous. Que ton esprit continue à nous parler et nous prépare pour l'heure qui va suivre, pas à pas, degré par degré.